Quand je pensais à ce que ce livre pourrait m'amener, je me suis dit, tiens, sûrement des belles discussions avec mon éditeur. Parce que c'est lui qui a choisi le texte, donc forcément, on devrait avoir des discussions sur tel ou tel choix, l'intention derrière une phrase, des choses comme ça. Je me suis dit, peut-être, s'il se rend jusque-là, des beaux échanges avec les lecteurs ou les lectrices. J'ai plus honte de le dire, mais jamais j'ai pensé au libraire. Jamais. Et aujourd'hui, je me rends compte que parmi les gens qui m'ont mis à plus d'une reprise les larmes aux yeux, il y a souvent eu des libraires. Et voilà, je pense que quand j'écrirai le deuxième roman, je penserai un peu plus à eux.
Bienvenue à la librairie Cochot qui met en valeur le travail des libraires. Voici votre animateur, René Cochot.
Ici René Cochot, toujours aussi heureux de vous savoir à l'écoute de cette émission. Voici un nouveau chapitre de la librairie Cochot. Au sommaire, on se transporte au Manitoba alors que je vous propose une entrevue réalisée avec Gérald Boily, le propriétaire de la librairie À la page à Winnipeg depuis 40 ans. Un entretien avec Alex McCann concernant son roman Saint-Nicolas-des-Marins, paru chez Alto. Léonie Boudreau de la librairie Les Deux Sœurs à Sherbrooke commente l'album Jeunesse Catastrophe de Mathieu Maudet, publié chez Frimousse. David Marchand de la librairie de la coopérative de l'Université de Sherbrooke nous partage une anecdote avec un client. Renaud Roussel, co-directeur des éditions du Boréal, présente la version québécoise du roman Vision de Gérard de Jack Kerouac, traduite par Maxime Catelier, arrivée nouvellement en librairie. L'autrice Véronique Drouin rend hommage aux libraires. Des libraires en Belgique partagent leur passion pour le métier. Bienvenue à la librairie Cochot.
J'aime lire les grands récits de chasse, l'odeur de la besace, le muscle du cheval, les plumes sous les balles. J'aime lire l'album de la comtesse, les tresses et la détresse. J'aime quand un simple mousse la trousse et la détrousse. J'aime lire les trajectoires en pente, les épopées sanglantes, brusquement et soudain. Pourtant tout allait bien. Je ne la lirai pas, je la
À la librairie Cochot, nous poursuivons nos entretiens avec des libraires, qu'ils soient au Québec ou ailleurs au pays. Et c'est le cas aujourd'hui, alors que je vais m'entretenir avec Gérald Boilly, qui est le propriétaire de la librairie À la page, une librairie située dans le quartier Saint-Boniface à Winnipeg, qui a 40 ans. Et c'est M. Boilly qui a fondé cette librairie à Winnipeg que j'ai en ligne. Bonjour, M. Boilly.
Bonjour.
M. Boilly, qu'est-ce qui, dans un premier temps, vous a amené à vous lancer dans cette aventure d'ouvrir une librairie dans le quartier Saint-Boniface à Winnipeg?
Bon, évidemment, moi, j'ai commencé à cause, disons, de l'affection que j'avais pour le produit, la littérature, le français, n'est-ce pas? Je dois dire que si on veut faire une évaluation commerciale, ce n'est peut-être pas une bonne motivation, bien que c'est bon d'avoir la motivation, mais à la fin du compte, le produit, ce n'est pas des pommes de terre, c'est de la langue, de la culture et de l'éducation. Par définition, c'est très difficile. Et le choix de faire ça parce qu'on aime le produit est peut-être pas une base commerciale valable. Mais bon, ceci dit, la motivation devait être là puisque j'ai survécu 40 ans.
Bon, qu'est-ce qui fait que vous avez effectivement traversé les décennies pour atteindre le cap du 40 ans, la clientèle qui s'est fidélisée, le fait que les francophones sont conscients qu'ils ont accès à une librairie francophone dans leur coin de pays?
Bon, j'imagine que oui, c'est sûr que le Manitoba, une communauté francophone assez très vibrante, là, qui est assez centralisée quand même, avec le pôle à Saint-Boniface et ensuite les villages autour. Donc, il y a quand même une concentration, justement, qui fait que on arrive à rejoindre les gens. Bon, 40 ans, il faut comprendre que c'est pré-Internet, là. Donc, oui. Donc au début, c'était juste en présence, présentiel que les gens faisaient les achats, n'est-ce pas? Mm-hmm. Alors, je pense que le fait que le Manitoba a une communauté vibrante au point de vue culturel, le cercle Molière, des choses comme ça, alors c'est très actif et ça l'a permis quand même d'ancrer le commerce dans une réalité culturelle très présente. Bon, ça ne veut pas dire que c'est facile non plus. Le produit demeure culturel et demeure un produit un peu de luxe quand même, là. Alors, je pense que le Manitoba était propice à l'époque pour faire cela, bien que de nos jours, les aspects frontières ont changé parce que les choses ne se passent plus de la même façon. Mais enfin, bon, on est toujours là.
Oui, c'est ça. Vous êtes toujours là. Vous dites que les choses changent. Qu'est-ce qui est le principal défi pour vous, là, actuellement, dans le domaine de la librairie à Winnipeg? Parce que tous les libraires indépendants sont confrontés à la réalité, entre autres, des achats en ligne, de la baisse du nombre de personnes qui achètent des livres ou qui lisent.
Oui, c'est sûr que la fréquentation en magasin a baissé. Elle n'est plus comme elle était avant. Je pense pas qu'on peut dire que ce qu'on faisait sur le plancher en personne a été complètement remplacé par les ventes en ligne. Ce n'est pas un transfert aussi automatique. Qui dit vente en ligne dit aussi accès facile à énormément, énormément de sources. Donc, du coup, ça veut dire plus de compétition, n'est-ce pas? Alors qu'à l'époque, quand c'était plutôt en présentiel, la compétition était moins évidente et plus difficile à atteindre pour les gens. Alors, qui dit Internet dit accès à beaucoup d'autres façons d'acheter. Parce que des fois, là, j'ai des clients qui vont rentrer et puis on va leur dire, bon, ben là, on n'a pas le produit, on est un petit magasin, il faut le stocker, aller chercher au Québec, il y a des délais, tout ça. Là, on voit dans leurs yeux, ah, ben je vais à Amazon, tu sais, le fameux Amazon, qui a été une difficulté pour moi, pour mon commerce en tout cas. Ça s'est un peu calmé, je pense, mais cette idée que Amazon, là, tu l'as dans deux jours, on te l'envoie sans frais, tout ça. D'abord, c'est pas vrai tout ça. Le produit français est pas disponible dans deux jours. Il est très difficile à avoir. Si les fournisseurs québécois l'ont pas, faut attendre. Les gens ne comprennent pas qu'un livre, ça voyage, c'est physique, et ça doit voyager dans un bateau. Ça ne vient pas par avion et ça ne vient pas aussi vite que l'Internet. Alors, tu vois, des fois, là, qu'ils disent, bien, je vais aller sur Amazon, peut me le donner dans 2 jours. Bien, si Amazon peut te le fournir dans 2 heures, moi, je me bats pas avec eux. Hein. Ouais. Je leur dis, si Amazon peut te le fournir dans 2 jours, puis en plus, si tu le réduis, bravo, vas-y. Moi, j'essaye même pas. Moi, je leur dis la réalité. La réalité, c'est que le livre n'est pas en stock chez le fournisseur. C'est un livre français de France que tu veux. Faut l'importer. Et c'est la réalité physique. L'Internet n'a pas changé les lois de la physique. La physique du livre physique demeure la même. Alors donc, c'est pas facile, là. C'était quand même cette compétition-là. Bien qu'on a survécu à Amazon quand même. C'est ce qui est quand même assez extraordinaire, là. Je pense que, et paradoxalement, la chose qui, déjà, Amazon nous avait mis à genoux, le COVID nous a mis sur le dos, nous a presque tués, mais le COVID a quand même montré la fragilité. Et ça, je pense que c'est bon. Parce que la fragilité a montré que, ben, si vous avez un endroit où vous pouvez aller voir les livres, voir un livre d'enfant, c'est important. Pouvoir le toucher, tout, voir comment il lit, comment il est, tout ça. Donc, l'idée de voir le produit est devenue tout à coup importante. L'idée que le commerce est un peu peut être précaire, qu'une chose comme une pandémie peut le fragiliser, parce que Dieu sait qu'il y en a des commerces qui ont fermé. Et alors, ça a montré que, finalement, ça a une valeur, un rôle culturel dans la communauté. Et je pense, donc, c'est un peu un paradoxe, c'est quelque chose de si négatif qu'une pandémie pour donner une valeur à un commerce basé sur la langue, la culture et l'éducation.
Ben voilà. Alors, un aspect qu'on avait peut-être oublié de cette fameuse pandémie, je poursuis mon entretien avec Gérald Boilly, qui est le propriétaire de la librairie à la page dans le quartier Saint-Boniface à Winnipeg depuis 40 ans. Bon, évidemment, une librairie a pour mission, entre autres, de faire découvrir la littératie francophone du Canada. J'imagine que ça fait partie de votre mission.
Oui, évidemment, ça c'est très important. Et d'ailleurs, si on regarde les ventes des produits dits de littérature, le produit local, des éditions du blé, des éditions des plaines, ou des auteurs qui vont des fois faire des choses à leur propre compte, c'est quand même toujours très important. Bon, pour nous aussi, on a au-dessus de nous l'ange Gabriel Roy, qui est une littérature qui perdure. C'est une littérature qui perdure dans le temps. Et une valeur sûre, elle se vend tout le temps, et c'est une bonne lecture, une bonne poésie, ce n'est pas hermétique. Alors je pense que Gabrielle Roy, la doyenne, ensuite entourée par la relève des éditions du blé et des éditions des plaines, je pense que tout cela fait que finalement, le francophone du Manitoba a un choix très intéressant ici là, pour encourager la création littéraire de son propre, sa propre population.
Et quelle place laissez-vous à la librairie à la page, à des rencontres d'auteurs, d'autrices, à des discussions, à des séances de dédicaces, à des lancements de livres?
Bon, je dois dire qu'au début du commerce, on a beaucoup de zèle, on a beaucoup de temps. Ce genre de choses qu'on a fait avec un succès mitigé, parfois c'est bête de faire une soirée avec un auteur et puis que finalement c'est bredouille, il y a très peu de monde, on se sent mal, tout ça. Alors ce genre d'activité, je dois dire qu'on le fait plus tellement. Et la réalité, vraiment la douche froide dans ça, c'est que les ventes au public ne peuvent pas maintenir un commerce comme le mien. Les 40 ans d'affaires me l'ont confirmé sine qua non. Ce n'est pas possible de les vendre du public, d'où entre la question des écoles. Ce sont les écoles qui gardent ce commerce vibrant. Ben, vibrant, c'est peut-être pas le mot, parce que ça donne l'impression que c'est qui le maintiennent, quoi. Ouais. Mais du coup, avec les écoles qui maintiennent le commerce demeure là pour le public aussi. Si la mère de famille peut venir voir les livres d'enfants que j'ai dans le magasin, c'est grâce aux écoles qui encouragent le commerce pour les bibliothèques d'école. Ça, c'est la réalité sine qua non. On peut pas s'en sortir. C'est ça qui nous tient à aller. Et puis vraiment, il n'y a pas de façon de sortir de cela. C'est la réalité. Vous enlevez les écoles, le dénominateur d'école, et ça ferme. ça ferme tout de suite parce que déjà que c'est assez une trésorerie très boiteuse, la langue, la culture et l'éducation. Donc, sans les écoles, c'est clair que ça ne serait plus là. Alors, je ne sais pas si c'était à la fois positif, mais c'était un peu négatif de constater ça. Mm-hmm. Mais le magasin ne peut pas fournir par les ventes publiques.
Bon, maintenant, Gérald Boily, on le mentionne, vous êtes le propriétaire de la librairie à la page à Winnipeg depuis 40 ans. Vous éprouvez toujours autant de plaisir à servir votre clientèle et est-ce que vous avez une relève en vue?
Bon, c'est vraiment pas évident. Là. 40 ans plus tard, je peux pas prétendre avoir la motivation que j'avais au début. Il est impossible de prétendre cela. Ouais. Quand on commence, on a beaucoup d'énergie, on va changer le domaine, on va faire les choses nouvelles de façon nouvelle, on va attirer les gens, tout ça. Bon. Et vous savez, on a la douche froide tout à coup, puis OK, c'est pas aussi facile que ça. Non. Alors là, disons qu'il faut se ressaisir puis concentrer sur ce qui marche pour survivre. Donc, il est vrai que 40 ans plus tard, je n'ai plus la motivation que j'avais. Et malheureusement, pour l'instant, quand vous avez un commerce qui ne donne pas de retour sur l'investissement, c'est très difficile à vendre. Comment tu vends un commerce qui ne donne pas de retour sur l'investissement? Alors, pour l'instant, je dois dire que la relève, elle n'est pas planifiée. Mm-hmm. Je dois dire aussi que le COVID a vraiment fragilisé, ce qui la rend moins attractive, la maison. Bon, je suis lentement en train de redresser l'opération pour essayer d'avoir justement une stratégie de sortie. Mais c'est pas évident, ça, parce que la jeunesse d'aujourd'hui, quand tu leur parles du travail qu'ils auront à faire, ils sont un peu frileux. Je les comprends. Parce que moi, je suis de l'époque où on a commencé à travailler très jeune dans des boulots qui étaient souvent ingrats. Alors, de monter l'échelle puis de travailler comme un déchaîné ici, là, dans cette opération, 7 jours sur 7, c'est pas tout le monde qui veut faire ça. Mm-hmm. Et quand tu leur expliques la nature du commerce, la nature de comment ça va te prendre en main, là, puis ça va te mobiliser, ça fait un peu peur, tout ça. Alors, je ne sais pas quelle formule il y aura, je ne sais pas quelle sera la relève, je ne sais pas si ce commerce aura des nouveaux propriétaires, un nouveau propriétaire, je ne sais pas pour l'instant. Je veux essayer de donner assez d'années avec que je peux pour le sortir du marasme que l'a laissé le COVID, là, parce qu'il y a encore des poussières de près au-dessus de la tête qui ne sont pas réglées. C'est une affaire extraordinaire, ça, que ce COVID. C'est une fin de carrière vraiment très difficile. On n'aurait jamais pu imaginer ça il y a 40 ans, qu'en fin de carrière, il y aurait cette chose qui tomberait sur le commerce, pas seulement que le mien, là, tous les commerces, dans le fond, surtout les petits, finalement, qui ont souffert énormément. Alors, pour répondre à la question, non, je n'ai pas la motivation que j'avais. Mais je pense que le fait que je continue, ça veut dire que je suis encore capable et avoir le désir de maintenir cette présence culturelle. Parce que quand on a passé 40 ans à le faire, c'est important de le maintenir et essayer de trouver une solution pour que ça perdure. Mais ça, ce n'est pas encore écrit.
D'accord. Ben Gérald Boily, propriétaire de la librairie à la page. Vous êtes au 200 boulevard Provencher à Winnipeg. Alors, j'espère que vous allez trouver preneur pour votre librairie lorsque viendra le temps de, si vous me passez l'expression, de tourner la page. Mais entre-temps, ben, bravo. Bravo pour cette belle carrière de libraire dans le quartier de Saint-Boniface à Winnipeg. Merci beaucoup.
Oui, merci beaucoup.
Bonjour, mon nom c'est Véronique Drouin, je suis autrice et de jeunesse et aux adultes. Et puis je dirais, bon, pour moi, le travail des libraires est essentiel. Il m'a tellement aidée dans ma carrière parce que, dans le fond, j'avais une carrière qui, des fois, j'étais pas tout le temps certaine. Est-ce que je rejoignais des gens? Est-ce que ce que je faisais était significatif? Puis c'est certain que, vu que j'ai gagné le prix des libraires, ça l'a vraiment, je dirais, presque tout changé. Ça l'a fait que j'ai eu beaucoup de reconnaissance, puis je le sais que ça vient directement des libraires. Fait que de eux, ça m'a vraiment amené quelque part d'autre. Ça m'a beaucoup donné confiance en ce que je faisais. Puis aussi, quand je les rencontre, ben ils peuvent me parler, ils peuvent me dire, me donner le son de cloche, qu'est-ce que les lecteurs lisent, qu'est-ce que les lecteurs aiment. C'est vraiment des gens spécialisés dans les livres, passionnés dans les livres. Pour moi, ben c'est vraiment, là, ça résonne beaucoup dans ce que je fais. C'est vraiment quelque chose qui est proche de moi puis qui m'aide beaucoup. Donc, je peux juste leur dire merci puis que je les aime donc puis que c'est vraiment, pour moi, ils sont précieux.
Un petit plongeon dans un passé pas si lointain. Découvrons dans une vidéo tirée de la série Découvrir Québec, qui présente des points d'intérêt fascinants et des lieux peu connus de la ville de Québec, la librairie Vaugeois, un véritable lieu de rencontre et d'échange pour les résidents de Sillery. On y fait la rencontre de Marie-Hélène Vaugeois, qui y a développé sa passion pour la littérature d'ici et d'ailleurs auprès de sa mère, qui a fondé le commerce de quartier en 1974.
Un matin, j'arrive pour travailler, j'ai 16 ans, et il y a une dame qui m'attend. Je lui avais conseillé des livres pour sa fille 2 semaines avant, ça avait super bien marché, sa fille était vraiment contente. Et là, elle m'attendait, parce qu'elle voulait avoir mes conseils. J'ai 16 ans, je suis une floune, là, puis il y a quelqu'un qui croit en moi. La librairie est née en 1974. C'est ma mère qui l'a ouvert au départ. Je pense qu'elle avait une passion des livres avec elle. Mon père était historien de son côté, donc publiait des livres aussi. Mais il n'y avait pas de librairie à Sillery même. Que c'était une manière de contrer ce manque-là. Au moment de l'ouverture, ce qui était très important pour nous, c'était de faire la promotion de la littérature québécoise. Et de l'histoire aussi. C'est sûr que ça ne nous empêchait pas de vendre les best-sellers français, européens et américains, mais on a toujours décidé de mettre la littérature québécoise de l'avant. On le fait encore aujourd'hui. Ça a été notre marque de commerce dès le départ. Un nouvel engouement pour les librairies, particulièrement les librairies indépendantes. On est un peu devenus des artisans. Curieusement, je ne sais pas comment ça s'est fait, mais dans la tête des gens, aller chez son libraire, c'est un peu comme aller chez son boulanger, puis chez son poissonnier. On sent que les gens viennent faire une rencontre. Ils viennent nous voir, oui, mais ils viennent rencontrer d'autres personnes aussi. Des fois, il y a des discussions qui partent entre les clients, entre le monde. Puis c'est vraiment ça qui est agréable. On sent qu'on est on a un café sans café, j'ai envie de dire, là. C'est ça, on est un lieu où les gens ont envie de venir échanger, de venir partager leur lecture, de venir nous parler. T'sais, j'ai envie de dire, dans le temps des fêtes, là, c'est sûr qu'on va avoir au moins une ou deux grands-mères qui vont venir nous présenter leurs petits-enfants. C'est sûr et certain, puis ça va faire... Ça fait partie de... On fait partie de la famille élargie, j'ai envie de dire.
Balzac, le libraire comme acteur du monde littéraire. Honoré de Balzac a lui-même exercé le métier d'éditeur, qu'on appelait alors libraire, en 1825, avant de faire faillite. Cette expérience douloureuse lui inspira l'un de ses chefs-d'œuvre, Illusion perdue, qui dépeint l'univers impitoyable de la librairie parisienne sous la monarchie de Juillet. Éditeur, imprimeur et écrivain, se font et se défont au gré des modes et des intérêts. Balzac connaissait ce monde de l'intérieur et il ne l'avait pas ménagé dans son roman.
Jeune amour secret avec une écrivaine. Je deviens dyslexique lorsqu'elle m'appelle. Je mélange des mots d'amour avec des termes érotiques. C'est fou comme sa verve me pique. moi je préfère être 3 fois X, rêvant à sa peau de 2 fois B, même s'il fallait que je consulte les 2 fois A. Avec une écrivaine, une admiration à sens unique. J'ai fait un arrêt stop à son chemisier et j'ai peur de céder à son passage à niveau. Mais moi je préfère être 3 fois X, rêvant à sa peau de 2 fois B, même s'il fallait que je consulte les 2 fois A. Lorsqu'elles font jaillir l'encre au stylo, comme elles sont belles les écrivaines le matin avec des cernes, cicatrices de mots. Moi je préfère être 3 fois X, rêvant sa peau de 2 fois B, même s'il fallait que je consulte les 2 fois.
Un autre chapitre de votre émission, La librairie Cochot, dans un instant. Vous écoutez l'émission littéraire La librairie Cochot.
C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui, là-haut, vers le brouillard. Elle descendait dans le midi, le midi. Ils se sont trouvés au bord du chemin. Sur l'autoroute des vacances, c'était sans doute un jour de chance. Ils avaient le ciel à portée de main, un cadeau de la Providence. Alors pourquoi penser au lendemain? Ils se sont cachés dans un grand champ de blé, se laissant porter par le courant, se sont racontés leur vie qui commençait. Ils n'étaient encore que des enfants qui s'étaient trouvés au bord du chemin. Sur l'autoroute des vacances, c'était sans doute un jour de chance. Qui cueillirent le ciel au creux de leurs mains, comme on cueille la Providence, refusant de penser au lendemain.
C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui, là-haut, vers le brouillard. Elle descendait dans le midi.
Le midi, ils se sont quittés au bord du matin. Sur l'autoroute des vacances, c'était fini le jour de chance. Ils reprirent alors chacun leur chemin. Saluèrent la Providence en se faisant un signe de la main. Il rentra chez lui là-haut vers le brouillard. Elle est descendue là-bas dans le.
C'est une romance d'aujourd'hui.
Parmi les livres qui font partie de mes coups de cœur en 2026, on retrouve le roman Saint-Nicolas-des-Marins d'Alex McCann, publié aux éditions Alto. À Saint-Nicolas-des-Marins, tout le monde dépend des marins qui font battre l'économie et derrière les portes closes, les cœurs. Mais quand le froid tombe du jour au lendemain, la mer gèle, emprisonnant bateaux et marins dans la glace. La survie de tous est menacée et les tensions augmentent entre villageois et Nico, gardien du phare, marchand de plaisir et surtout fils de sorcière. Alex McCann emprunte les codes du conte dans ce roman. Voici un extrait de l'entrevue qu'il m'a accordée pour la librairie Cochot. Bonjour, M. McCann.
Bonjour, bonjour.
Comme je le mentionnais, vous empruntez les codes du conte pour tisser votre roman qui se veut en fait une réflexion, entre autres, sur l'exclusion. À votre avis, c'était le conte la meilleure façon d'exposer là, votre point de vue?
Oui, définitivement. Pour moi, le conte, ça se rapproche un peu de la poésie, qui est le genre que je pratiquais avant de publier un roman. Mais j'en fais encore, mais là, je suis vraiment plus dans le roman. Mais donc, parce que le conte, c'est un pouvoir d'évocation, c'est un pouvoir, on peut se permettre d'aller dans l'imaginaire. Donc, on peut dire un peu plus de choses que dans un roman un peu plus réaliste. Puis, j'aimais beaucoup l'idée que le conte, c'est un genre qui est lié à l'enfance, qui est lié à quelque chose d'un peu plus innocent, puis de m'en servir pour avoir des thèmes qui sont un peu plus intenses, raconter des choses même un peu plus sombres. Je trouvais que ça crée un contraste très intéressant.
Oui, parce que les contes que j'ai lus lorsque j'étais jeune nous amenaient dans des mondes assez cruels, mais en même temps nous forçaient à la réflexion. C'est un peu ce que vous aviez en tête, là.
Absolument. Sans toutefois avoir mis une morale. Il n'y a pas de morale, mais, ouais. Mais quand même, oui.
Bon, alors parlons de cette façon dont vous avez choisi de nous présenter le village de Saint-Nicolas-des-Marins. C'est un village qui est inventé dans un temps qui n'est pas identifié, à une époque non plus. Donc, c'est universel, là. Ça peut se situer partout dans le monde, à n'importe quelle époque. Ça demeure actuel, que ce soit aujourd'hui ou qu'on le lise dans 20 ans, non?
Oui, c'était ça le but, c'était de montrer aussi que ben l'exclusion, le rejet, la marginalité, c'est quelque chose qui se vit partout, tout le temps, en fait. C'est pas lié à une époque précise. Puis je voulais avoir un discours qui était peut-être un peu plus général sur ça.
Bon, vous avez choisi aussi de faire en sorte que Nico, le gardien du phare, soit fils de sorcière. Pourquoi vous avez associé donc la réalité de ce gardien de phare étranger au village et sa mère sorcière?
Tout d'abord, par intérêt personnel, je trouve que la figure de la sorcière, c'est une figure, moi, qui me fascine, sur laquelle je reviens tout le temps, je la cherche dans les œuvres, je l'enseigne, je suis vraiment fasciné par ça, mais je trouvais aussi que c'était une figure qui symbolisait la marginalité, mais aussi qui portait en elle une sorte d'espoir, parce que la sorcière, c'est souvent... c'est un bouc émissaire, c'est dans l'image de la sorcière, on va verser un peu toutes nos peurs, tout ce dont on veut pas parler, tous les tabous. Puis la sorcière, à la base, qu'est-ce que c'est? C'est souvent des femmes qui étaient simplement indépendantes. Et donc, aujourd'hui, on assiste aussi à une reprise de cette figure-là qui se sert de ses défauts ou de quoi on l'accusait, puis qui s'en sort comme d'une force. Donc, je trouvais que c'était vraiment bien ça servait bien le propos du livre de montrer que oui, on peut être exclu, on peut être repoussé, montré du doigt, mais cette différence-là, elle peut aussi être utilisée pour créer des choses, on peut s'en servir comme d'une force, en fait. C'est pas simplement une faiblesse.
Bon, parlons d'un autre personnage principal de ce roman, Saint-Nicolas-des-Marins, c'est l'hiver, le froid, et ces marins qui sont pris au piège de cette glace subite. C'est un personnage fort, mais très signifiant, là.
Oui, en fait, le froid est arrivé dès le début du processus. J'avais l'image en tête, puis c'est une façon pour moi de représenter, de créer un huis clos. D'enfermer mes personnages dans quelque chose de plus grand qu'une simple pièce ou qu'une simple maison. Ils sont pris dans leur village, dans les environs du village aussi, par le froid qui bloque tout. Donc, je trouvais que c'était une façon intéressante d'amener ça, mais aussi, c'est très personnel. Je voulais quelque chose qui semblait infini, puis qui pouvait même être un peu déprimant. Puis l'hiver, moi, j'aime pas vraiment ça. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qui donne l'impression? Qu'est-ce qui serait déprimant, là? Je me dis, un hiver qui finit jamais. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ça. Mais aussi, l'hiver, comme la sorcière, ça apporte une partie d'espoir, parce que l'hiver finit toujours par finir. Mm-hmm. Donc, à un moment donné, tout gèle, mais le printemps finit toujours par arriver, là, va finir par poindre.
À Saint-Nicolas-des-Marins, comme je le mentionnais, la suspicion s'installe. Et évidemment, la personne toute désignée pour cela, c'est l'étranger. C'est en quelque sorte un peu à l'image de ce qu'on observe aujourd'hui.
Oui, il y a beaucoup de ressemblances, oui, quand même. Mais c'est un thème, en fait. Quand j'ai écrit le livre, à un moment donné, j'ai réalisé que tous les personnages étaient marginalisés d'une façon ou d'une autre. Mm-hmm. Puis là, j'ai décidé d'appuyer aussi le trait, là. Donc oui, c'est l'exclusion sous toutes ses formes, en fait, qui est au cœur de ce livre-là, oui. Et oui, il y a beaucoup de liens avec l'actualité. C'est même un peu, un peu inquiétant.
Oui, c'est ça, effectivement. Bon, ce qui m'a frappé aussi, c'est que vous choisissez une forme narrative bien particulière. Une forme narrative à deux voix. Celle de Nico au « je » et une autre plus au « nous ».
Oui, oui, mais c'est qu'à un moment donné, j'ai trouvé que je trouvais ça monotone d'avoir toujours Nico qui parle au « je ». Il a son ton de voix qui est très à lui. Puis... ça m'empêchait peut-être d'avoir un regard peut-être un peu critique sur ce qu'il faisait. Mm-hmm. Parce que Nico est très convaincu des gestes qu'il pose. Donc, d'avoir un regard extérieur comme celui des orphelins, ça me permet de présenter Nico sous une autre forme puis de montrer différents points de vue par rapport à ce qui se passe dans le livre.
Parlons justement de ces fameux orphelins qu'on retrouve à Saint-Nicolas-des-Marins. Moi, le parallèle que je faisais, c'était avec les orphelins du Plessis. Est-ce que je suis dans le champ?
Non, ça fait beaucoup de sens, oui. Oui, c'est les orphelins, c'est aussi ceux qu'on... C'est pas nécessairement ceux qu'on laisse, mais dans le village, ce sont des laissés pour compte. Donc, oui, absolument, il y a quelque chose là-dedans. J'ai aussi pensé un peu à l'image des enfants soldats qui vont servir d'armes, qui vont être le bras de Nico. Nico est la tête de la vengeance, les orphelins sont vraiment les bras.
Oui, l'image est forte. C'est un roman, somme toute, qui porte sur la vengeance, là.
Oui, absolument. C'était l'idée de départ. C'était de pas tant de plaindre l'exclusion que d'imaginer la vengeance qui pourrait venir après si tous ceux qui étaient repoussés, si tous ceux qui étaient exclus décidaient de se mettre ensemble et de se rebeller, en fait. Puis la fiction me permet d'aller très loin puis d'imaginer ça sous toutes ses formes.
Merci beaucoup, Alex Mécan.
Merci beaucoup. Merci à vous.
C'est écrit dans le livre. Le livre du temps, on ne pourra jamais tout lire, et pourtant, nous sommes les acteurs de ce grand roman dont on ne connaît pas l'auteur, le livre du temps. Le livre du temps.
découvrons la librairie Pantoute dans une vidéo disponible dans les médias sociaux où on peut écouter l'animatrice Rosie qui revient sur les rencontres qui ont jalonné l'histoire de cette librairie.
On l'a vu, considérer Pantoute comme une simple boutique de livres serait terriblement réducteur. Depuis ses débuts, Pantoute favorise la rencontre entre sa clientèle et les artisans de la littérature, surtout québécoise. Pensons à Patrice Desbiens, Marie-Claire Blais, Serge Bouchard, Hélène Dorion et tellement d'autres. Des causeries au Café Temporel jusqu'au Studio P, la littérature se lit et se vit. Les gens se bousculent entre les rayons de la librairie pour aller rencontrer leur poète favori, obtenir une dédicace d'un bédéiste ou pour souligner le lancement d'un livre tant attendu. La librairie Pantoute, c'est un lieu de rassemblement, de réflexion, de transmission, d'échange. Depuis ses débuts, elle est profondément collective. C'est un espace où on laisse aller son imaginaire et sa créativité. Pantoute, joyeux anniversaire et on se souhaite 50 autres belles années.
Elle aime les rayons de soleil, mais elle aime encore plus les rayons de sa librairie Les Deux Sœurs, Léonie Boudreau.
Bonjour Léonie.
Bonjour René.
Catastrophe. Que se passe-t-il? Catastrophe, c'est le titre de l'album jeunesse dont tu as choisi de nous parler cette semaine. C'est aux éditions Frimousse. C'est dans la collection des carrés à croquer. Et là, on a un beau petit crocodile avec un T-shirt avec la lettre F. Et c'est de Mathieu Maudet. Alors, parle-moi de cette catastrophe. Quelle est-elle?
Bien, c'est une grande catastrophe, en fait. Mathieu Maudet qui revient. Mathieu Maudet qu'on aime beaucoup, qui se joint souvent à Michael Escoffier pour illustrer les textes de Michael. Mais ici, il est tout seul. Il est et au texte et à l'illustration. Mais ce qui caractérise un peu tous ses livres, peu importe c'est qui écrit le texte, c'est l'humour. Ouais. Et dans tous ces personnages, c'est souvent des animaux et des animaux qui n'ont pas la vie facile. Et ici, ben, c'est un petit crocodile qui s'appelle Fernand et qui commence sa journée là, pas du bon pied. Il se lève en retard et là, qu'est-ce qui arrive quand on est en retard? Tout va mal. Il renverse son chocolat chaud sur lui. Catastrophe. Et là, il est en retard pour aller à la piscine et là, il se dépêche. Sa mère l'aide. Et là, finalement, il arrive dans l'auto un petit peu en retard. Puis là, il doit ramasser son ami. Son ami aussi est en retard. Et là, il croise un autre ami. Il doit ramasser plein d'amis en chemin. Et là, finalement, mais il arrive à la piscine juste pile poil à l'heure et il évite la catastrophe. Mais l'a-t-il vraiment évité? Et là, je vous laisse là-dessus. Ah oui. Alors, une catastrophe, est-ce qu'on peut vraiment l'éviter? C'est ça qu'on se pose comme question avec ce petit livre-là, qui est très drôle, qui est très, très accessible aussi, parce qu'il n'y a pas beaucoup de texte. Il y a des mots comme « catastrophe » qu'on peut crier avec l'enfant. Donc, une petite histoire vraiment très drôle, avec plein de beaux personnages, qui peut être très accessible dès quasiment un an.
On dit souvent qu'une catastrophe en entraîne une autre.
Oui, ben justement, vu que ça commence en catastrophe, cette histoire-là, ben là, tout le monde est un peu en catastrophe parce que ben, c'est eux qui font le lift là, à tout le monde pour aller à la piscine. Puis c'est ça, c'est un style qui est vraiment très, très apprécié pour les enfants, pour les adultes aussi, qui est très naïf, là, des petits animaux vraiment attachants. Puis c'est ça pas mal dans tous ces albums. Donc, on aime toujours retrouver ces petits animaux attachants qui vivent de grandes catastrophes.
Alors ici, si je ne m'abuse, on a un renard, un éléphant, une girafe et évidemment Fernand, le petit crocodile. Merci beaucoup, Léonie.
Merci, René.
Daniel Pennac, lui-même ancien libraire à Soissons, a consacré tout un livre au plaisir de lire. Il y décrit ce que signifie vraiment s'approprier un livre. Dès qu'un livre finit entre nos mains, il est à nous, exactement comme disent les enfants, c'est mon livre. C'est sans doute la raison pour laquelle nous rendons si difficilement les livres qu'on nous prête. Sur les nouveautés littéraires.
Traduit en France dans les années 1960, le roman intimiste « Vision de Gérard » de Jack Kerouac n'avait pas pour le lecteur d'ici de saveur, de cadence, de musique franco-américaine. Maxime Catelier, écrivain et professeur de littérature au collégial, s'y est attelé. Voici la version québécoise de « Vision de Gérard » de Jack Kerouac. Écoutons Renaud Roussel, co-directeur général des éditions du Boréal.
Pourquoi une première traduction dans cette collection réservée aux livres inclassables? Eh bien, c'est Maxime Catelier qui nous est arrivé avec ce projet d'une nouvelle traduction en langue québécoise de Vision de Gérard, ce récit, ce roman très intimiste de Kerouac sur l'agonie de son grand frère de 9 ans quand lui en avait 4. Vous le savez, depuis la publication il y a 10 ans de La vie est dommage, les textes écrits en français par Jacques Kerouac, cette part de son œuvre a été donc révélée au grand jour. Cette importance du français canadien dans l'œuvre des Kerouac, qui a écrit la plupart de ses brouillons en français, qui a aussi, dans ses livres écrits en anglais comme Vision de Gérard, transcrit certaines phrases qui se retrouvent ici parfois en parenthèse, parfois dans la narration directement. C'était donc tout à fait logique qu'après la traduction franco-française réalisée dans les années 60, une traduction en québécois, dans la langue donc maternelle de Kerouac, soit réalisée par Maxime Catelier. Et c'est donc, comme il le dit lui-même, et d'ailleurs il est peut-être parmi nous aujourd'hui, donc je le salue si Maxime est là à m'écouter, comme il le dit lui-même, c'est une traduction d'une traduction, puisque Kerouac avait lui-même traduit vers l'anglais la langue qu'il entendait au quotidien et qu'il parlait dans sa famille. Donc un texte vraiment qui est dans la continuité de l'esprit de Jacques Kerouac et une grande découverte que cette nouvelle traduction de Maxime Catelier.
Bonjour, ici David Marchand de la librairie de la coopérative de l'Université de Sherbrooke. Quelle est l'anecdote la plus marquante avec un client? Une qui ressort, que je ne dis pas nécessairement que c'est la plus intéressante en soi, mais une qui m'a le plus marqué, c'est une mère qui était venue puis elle voulait un livre pour expliquer la mort à son enfant. Parce qu'il y avait eu un décès dans sa famille, puis c'était d'expliquer de quoi il s'agissait. Puis que j'avais trouvé le livre, la personne m'était revenue par après, puis elle m'a dit « merci beaucoup, je sais que ça va avoir changé son rapport à la mort. » Puis, tu sais, ça nous suit toute la vie, le rapport à la mort. Fait que souvent, je repense à ça, tu sais, comment initier, parce qu'on ne choisit pas comment que ça arrive, hein, souvent. Mais c'est moins le cas aujourd'hui. Mais de facto, ça fait que tu sais que tu as eu un impact sur le parcours de quelqu'un, même si cette personne-là ne le saura jamais. Donc, ça m'avait particulièrement marqué. Comment que je construis une recommandation pour un client? Évidemment, la première étape, c'est de comprendre à qui on a affaire. Hein? Parce que c'est pas tout le monde, on a nos goûts personnels, évidemment, comme libraire, qui nous marque, puis qu'on a le goût de recommander, de passer au suivant, bien évidemment. Mais ça ne sera pas nécessairement fait à tout le monde. Il faut garder en tête que le client, lui, il a besoin d'un livre qui va lui parler à lui, qui va l'inspirer. Fait que c'est de poser des questions. Qu'est-ce qu'il a aimé? Qu'est-ce qu'il a déjà lu? Qu'est-ce qu'il a de besoin? Qu'est-ce qui l'intéresse en ce moment? C'est quoi son univers? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête ces derniers temps? Y a-t-il quelque chose qui va le marquer? Puis nous, dans notre catalogue, dans tout ce qu'on a lu, dans tout ce qu'on connaît, bien peut-être qu'il y a quelque chose qui va sortir, qui nous a moins parlé, mais que quand on va y présenter, peut-être que là, il va allumer, puis il va y avoir un déclic qui va se passer. Fait que, tu sais, on a une part, mais après ça, quand on présente au client, après ça, c'est à lui de dire, de s'ouvrir, puis de dire, est-ce que ça me parle? T'sais, voilà. Ça se fait à deux.
Découvrons le plaisir de certains libraires indépendants en Belgique à conseiller la clientèle. Dans une vidéo produite par TDM Télévision du Monde, ASBL, qu'on retrouve dans les médias sociaux.
Les librairies indépendantes. Choix, conseils, découvertes.
Entrée libre!
Je pense qu'on devient libraire indépendant par amour du livre, mais aussi parce qu'on aime partager autour des livres. Quand j'ai lu un ouvrage que j'ai aimé, ben d'office, j'ai envie de le dire ben d'abord à mes collègues libraires et puis après au premier lecteur que je rencontre. « je ne suis pas une vendeuse. Je suis plutôt quelqu'un qui transmet des histoires. Et c'est ça que j'aime vraiment. C'est aussi avoir la chance de pouvoir créer des liens particuliers justement avec nos lecteurs et nos clients qui nous connaissent, qui nous reconnaissent, qui viennent chez nous, qui nous font confiance.
Il y a notamment une des personnes qui travaille à l'arrière de la librairie qui est venue un jour me dire « Mais est-ce que tu ne serais pas un peu psychologue de quartier également ?» Et il y a parfois en effet cette proximité, cette intimité qu'on tisse avec le lecteur. On tient un commerce, mais on tient un commerce dans lequel on va rentrer dans l'intimité de la personne qui vient rechercher de la lecture.
Ça peut être des conseils plus comme de la documentation. Nous, on est obligé de faire des liens, de se dire qu'est-ce qui pourrait, donc ça fait des échanges intéressants. Ou bien par exemple à Noël, on nous dit souvent « mon papa, il aime ça, ça et ça, qu'est-ce que je peux lui acheter ?» Et ça, oui, c'est très chouette aussi. Parfois, ça passe par les réseaux sociaux, on fait beaucoup de posts, coup de cœur ou simplement explication d'un livre, voilà, en disant celui-là, on l'aime bien.
Ce que j'adore, moi, dans le conseil, c'est de conseiller un livre à quelqu'un et qu'ensuite cette personne revienne, soit pour nous dire qu'elle n'a pas aimé, et ça va, parce qu'alors on commence une autre conversation vers d'autres types de bouquins, ou justement pour dire qu'elle a aimé. Et pour moi, c'est ce qu'il y a de plus beau, en fait, dans ce métier, c'est de pouvoir créer une relation comme ça, avec toutes ces personnes qu'on n'aurait pas rencontrées ailleurs, en fait.
Lire. Je lis, tu lis, il lit, nous lisons, vous lisez, ils lisent. Je lis, tu lis, elle lit, nous lisons, vous lisez, elles lisent. Exemple, je lis un livre par semaine, tu lis la notice avant de commencer, il lit une histoire à ses enfants avant de dormir, nous lisons le journal chaque matin, vous lisez une lettre écrite par votre grand-mère, ils lisent tous les deux sur le canapé.
Eh bien voilà que se termine cet épisode de votre émission littéraire La librairie Cochot. Je m'appelle René Cochot et j'ai la grande joie d'animer cette émission qui vise à mettre en valeur le travail des libraires et des librairies indépendantes. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre chapitre de La librairie Cochot.
De chaque côté de l'océan, la parole nous traverse. C'est alors qu'on se rencontre. C'est alors qu'on se rend compte. C'est juste de la poésie.
C'est juste. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui coule n'est pas de l'eau. Dès lors, les flots charrient leur lot de larmes, de silence et d'écho. On ne naît pas tous sur le même bateau, mais les courants nous poussent sur les mêmes rivages. On s'arrime aux mêmes images, quand l'encre et le stylo. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Il y a des pertes de vie qui s'évitent par la rime. On ne va rien changer, mais ça ne change rien. Tout ce qu'on veut faire, c'est juste la poésie.
Et si cette poésie était juste une petite trace qui nous reste, qu'on voit toujours, même quand elle s'efface, comme un souvenir, une image, mais aussi comme une envie, un projet, une proposition, un bout d'espoir qui prend vie. Et si l'art était juste un moment d'émotion, où l'aiguille de l'horloge suspend sa rotation, alors l'heure orateur face à l'art oratoire, et les cœurs en accord réécriront leur histoire. Et si toute cette féerie n'existait que dans nos têtes, que la vie poursuivait son cours tranquillement derrière nos fenêtres, on ne changera rien au monde, le croire serait une hérésie. Ce n'est qu'un moment entre nous, c'est juste la poésie.
C'est juste. Juste la poésie, faut pas s'en faire, on ne va rien changer, mais ça ne change rien. Tout ce qu'on veut faire,
c'est juste la poésie.
Lire dans ma main, à double interligne, y voir le signe d'un chemin littéraire. Lever le pouce sans itinéraire, filer où la mine mène, au fil du courant, prendre mon temps. C'est souvent le doute, loin des temples, qui m'indique la route à suivre.
Faut pas s'en faire, on ne va rien changer, mais ça ne change rien. Tout ce qu'on peut faire, c'est juste la poésie.